Jean-François Zigel. La preuve par Z. Une émission de France Inter faite à la main et pour les oreilles. Bonjour. Ouverture d'opéra comme on les aime, saisissante, théâtrale, avec appel de cuivre, trémolo de cordes et grand outil d'orchestre. L'ouverture de Roméo et Juliette de Charles Gounod laisse ainsi présager le destin tragique des deux amants de Vérone. Vous l'aurez compris, c'est du mythique chef-d'œuvre de Shakespeare dont il sera question dans cette preuve par Z. C'est que depuis sa publication en 1597, l'histoire de Roméo et Juliette n'a cessé d'être reprise, modifiée, adaptée ou transposée par les écrivains, les cinéastes, les chorégraphes et bien sûr par les compositeurs. Rien qu'aujourd'hui, chers auditeurs, je vous en propose pas moins de 8. Alors nous avons commencé par le célèbre opéra de Gounod que les Parisiens découvrent en 1867 au Théâtre du Châtelet. Opéra qui vaut à son auteur son plus grand triomphe de son vivant. Un magnifique ouvrage qui comprend, entre autres, un air de soprano particulièrement véloce, la valse de Juliette, véritable tube que je me souviens avoir joué des centaines de fois lorsque j'étais accompagnateur de cours de chant, d'auditions et de concours. Une valse légère et tourbillonnante, certes passablement anachronique puisqu'il est douteux qu'à l'époque de Shakespeare on ait dansé la valse. C'est que Juliette se prépare à son premier bal, là où tout commence, là où elle va croiser le regard de Roméo alors qu'elle est censée épouser Paris, jeune aristocrate de Vérone de 12 ans son aîné. Je veux vivre dans ce rêve qui m'enivre. Juliette est frémissante, impatiente, ivre de vocalise.
Non, non, je ne vais pas t'écouter plus longtemps.
Oh!
Nous écoutions Juliette, alias Angela Gheorghiu, vocalisée d'impatience, et l'orchestre du Capitole de Toulouse était dirigé par Michel Plasson. Et pendant que Juliette se prépare, arrivent masqués Mercutio, Roméo et Benvolio, trois Montaigu qui s'introduisent furtivement dans le bal donné par leurs ennemis. Roméo est inquiet de ce qu'il pourrait arriver s'ils étaient découverts. Il a fait la veille un mauvais rêve. Mais son ami Mercutio se moque de lui. Il ne croit pas aux prémonitions. Les rêves ne sont pour lui que des fantaisies sans aucune signification, envoyées pour nous troubler par la reine des songes, la fameuse reine Mab, dont il dresse le savoureux portrait. À travers l'espace, à travers la nuit, elle passe, elle fuit. Son char fut fait d'une noisette vide. Les harnais, subtiles dentelles, ont été découpés dans l'aile de quelques vertes sauterelles et un os de grillon sert de manche à son fouet. Elle effleure ta bouche et te fait rêver de baiser.
Mab, la reine des mensonges, préside aux songes, plus légère que le vent décevant. À travers l'espace, à travers la nuit, elle passe, elle fuit, elle passe, elle fuit, elle passe, elle fuit. Son char, que l'atome rapide entraîne dans l'éther limpide, fut fait d'une noisette vide par vers de terre le charron. Les harnais subtils dont elles ont été découpées dans l'aile de quelques vertes sauterelles par son cocher, le moucheron. À l'os de grillon sert de manche à son fouet, quand la mèche blanche est prise au rayon qui s'ébauche de fémère à son blanc amour. Chaque nuit dans cet équipage m'a visité sur son passage les fous qui rêvent de veuvage et l'amant qui rêve d'amour. À son approche, la coquette rêve d'amour et de toilette. Le courtisan fait la corvette, le poète rime ses vers. À l'aval, en son gîte sombre, elle ouvre des trésors son ombre. Et la liberté rit dans l'ombre aux prisonniers chargés de fer. Le soldat rêve d'embuscade, de bataille et d'estocade. Elle reverse les rasades dans ses lauriers sont arrosés. Et toi qu'un soupir effarouche quand tu repose sur ta des mensonges, préside aux songes, plus légère que le vent décevant. À travers l'espace, à travers la nuit, elle passe, elle fuit, elle passe, elle fuit, elle passe, elle fuit.
Staccato léger, trilles furtifs, gammes et guirlandes de violons, fusées de flûtes et de clarinettes, l'orchestre du Capitole de Toulouse, sous la direction de Michel Plasson, accompagnait le baryton Simon Kinleyside dans cette ballade de la Reine Mab tirée du Roméo et Juliette du compositeur français Charles Gounod. Donc, nous avons commencé notre preuve par Z consacrée cette semaine aux différentes versions du célèbre Roméo et Juliette de Shakespeare par le fameux opéra de Gounod. Une pièce de théâtre transformée en opéra, quoi de plus habituel en effet. Mais en 1839, Berlioz, qui ne fait jamais rien comme tout le monde, à l'idée de transformer le drame de Shakespeare non pas en opéra, mais en symphonie, sa troisième après la symphonie fantastique et Harold en Italie. C'est ainsi qu'il écrit à partir de Roméo et Juliette ce qu'il nomme une symphonie dramatique, autrement dit une pièce de théâtre incarnée en symphonie, rendant ainsi hommage à ceux qu'il considère comme les deux plus grands artistes de tous les temps, Beethoven pour la symphonie et Shakespeare pour le théâtre. On en écoute le début ? Vous allez voir. Les entrées successives des corps de façon fugue nous font tout de suite entrer dans l'action, figurant le combat des différentes factions et leur tumulte grandissant jusqu'à l'arrivée du prince de Vérone qui sermonne tout le monde sous forme d'un grand solo des cuivres graves de l'orchestre. Le charisme du prince impressionne, la foule se disperse dans un décrescendo final. L'incroyable tension théâtrale du début de la symphonie dramatique Roméo et Juliette de Berlioz par l'Orchestre symphonique de Boston dirigé par Seiji Ozawa. Retour à l'opéra, mais cette fois-ci l'opéra italien, avec un Giulietta e Romeo signé Niccolò Antonio Zingarelli. Bon alors je suppose que vous n'avez jamais entendu parler de Zingarelli et je dois vous avouer que je l'ai moi-même découvert en préparant cette émission. Il fut pourtant l'un des compositeurs d'opéras italiens les plus célèbres de son temps. Napoléon admirait tellement son talent qu'en 1811, il lui pardonnera d'avoir refusé de diriger à Rome un Te Deum pour la naissance de son fils, le fameux Aiglon, futur et éphémère Napoléon II. Non seulement l'empereur fait sortir Zingarelli de prison, mais il lui octroie même une généreuse pension. Notre compositeur italien reviendra quelques années plus tard à Naples, sa ville natale, pour en diriger le conservatoire et y enseigner la composition, formant notamment Bellini et Mercadante. Ce qui me plaît bien chez Zingarelli, c'est qu'en 1837, sentant venir sa fin, il a d'abord pris le temps d'écrire un requiem destiné à ses propres funérailles. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Mais c'est à la Scala de Milan qu'est représentée en 1796 Giulietta et Roméo, aujourd'hui considérée comme son chef-d'œuvre. Zingarelli prend quelques libertés par rapport à la tragédie originale, réduisant l'intrigue à 6 personnages contre une vingtaine chez Shakespeare. Et voici l'ère de vengeance du père de Juliette, au moment où il apprend que son pire ennemi convoite sa fille. « À l'idée de cet outrage, je n'entends plus que ma fureur, que ce vil traître périsse. » L'air est précédé d'un récitatif accompagné au violoncelle avant que n'éclate la colère du père.
« Più dubitar mi fan questi suoi detti, o miei giusti sospetti, poi mi turbate il cor. » Empio nemico sedur potria la figlia con esecrando amor. A che mi sento all'idea d'un oltraggio tutto avvampare il core e la voce odo sol del mio furore. Ombre di morte, ma me d'intorno t'aggirio vendetta, che m'attiti qual barbara sorte, si conviene, si conviene al merito cor. Toda pur, ma che sento, che sento, qual voce ora insana pietà mi consiglia. Non t'ascolto, non t'ascolto, il mio cuor più feroce. Dona pur, ma che sento, che sento, qual voce ora insana pietà mi consiglia, non t'ascolto, non t'ascolto, era estinto quel reo traditor, e il mio cuore più veloce, era estinto quel reo traditor. Ombre di morte, a me ti torno t'aggirio vendetta, da ti t'aggirio vendetta. Ma a ti di quel barba la sorte, si conviene a un perfino cor. Che sento, ma che sento, qual voce mi sarà pietà mi consiglia, non t'ascolto, non t'ascolto, e il mio cor più feroce, era estinto quel re.
L'héroïsme irrésistible et la virtuosité de l'extraordinaire ténor mexicain Javier Camarena, une magnifique voix montant avec une facilité déconcertante jusqu'au contremis. Il était accompagné par la formation monégasque des musiciens du prince, dirigée par Gianluca Capuano. Retour à l'orchestre, avec une œuvre rare que j'espère vous allez aimer autant que je l'apprécie, une sorte de poème symphonique signé du compositeur norvégien Johan Svensson. Je vous dis d'abord quelques mots sur ce compositeur. Donc norvégien, né en 1840, mort en 1911, Johan Svensson quitte son pays en secret à l'âge de 22 ans pour l'Allemagne. Il finance ses études en jouant dans les cafés et les restaurants, d'ailleurs aussi bien du piano que du violon, de la clarinette, de la flûte, du trombone ou des percussions. Le consul de Norvège lui accordera finalement une bourse qui lui permettra d'étudier à Leipzig, où il se passionne pour la musique de Liszt et pour celle de Wagner, dont il deviendra l'ami intime. Il compose sa première symphonie à l'âge de 25 ans, faisant de lui le premier symphoniste norvégien. Sa belle réputation de chef d'orchestre le fait ensuite voyager à travers l'Europe. Et il compose en 1876 une introduction symphonique au drame de Shakespeare, sorte d'ouverture de concert, mais sans lien avec une représentation scénique. Elle ne résume pas le drame shakespearien, mais en évoque les sentiments, les humeurs, les passions. Une magnifique coulée de musique romantique, incarnant en vagues successives le souffle inextinguible du sentiment amoureux.
Thank you.
Le chef d'orchestre estonien Neeme Järvi dirigeait l'orchestre philharmonique de Bergen dans le rare Roméo et Juliette de Johan Svendsen, Roméo og Julie, en norvégien. Alors la question qui peut se poser lorsqu'on écrit de la musique pour une pièce de théâtre, c'est bien sûr celle du style. Doit-il être en rapport avec l'époque où vit le compositeur, avec celle du dramaturge, ou encore avec celle pendant laquelle est supposée se dérouler l'action ? Dans sa musique de scène pour Roméo et Juliette écrite en 1922, le compositeur, pianiste et chef d'orchestre suédois Wilhelm Stenhammar opte pour un intéressant compromis, comme vous allez pouvoir le constater par vous-même en écoutant cette gavotte étrangement archaïsante, censée faire écho au décor qui allait être utilisé pour le spectacle du théâtre de Göteborg, inspiré par le début de la Renaissance et par les toiles de Giotto. Les cordes de l'orchestre jouent d'abord en pizzicato, comme sur une guitare, donnant le sentiment d'une fête entendue au lointain. Nous écoutions à nouveau le chef d'orchestre Neeme Järvi, mais cette fois à la tête de l'orchestre symphonique de Göteborg, dans cette gavotte tirée du Roméo et Juliette de Wilhelm Stenhammar. Retour à l'opéra avec un passage particulièrement coloré et animé du compositeur suisse Heinrich Sutermeister, qui, après un voyage en Italie, à Vérone, décide d'écrire un opéra consacré à Roméo et Juliette qu'il achèvera en 1939 et qui sera interprété l'année suivante par l'Opéra de Dresde sous la direction de Karl Böhm. Ce sera l'un de ses plus grands succès. Une écriture efficace, des rythmes incisifs, une belle invention orchestrale et un sens très original du théâtre musical sont mis au service d'une action resserrée qui supprime notamment les personnages de Mercutio et de Tybalt ainsi que la réconciliation finale. Et Juliette ne se poignarde pas mais meurt d'amour, comme dans la légende pré-shakespearienne. Tout cela n'empêche pas l'œuvre de s'ouvrir sur les combats entre Capulet et Montaigu sur la Piazza dei Signori à Vérone. Éclat de trompette, nombreuses percussions, déploration de femmes, cœur parlé, le prince Escalus intervient et menace de mort tous ceux qui prolongeraient le conflit. Heinz Wallberg dirigeait le chœur et l'orchestre de la radio bavaroise dans la première scène de l'opéra Roméo und Julia d'Heinrich Zutermeister. Nous revenons maintenant au théâtre avec l'une de mes œuvres préférées du compositeur russe Dimitri Kabalevski, dont mon professeur de piano adorait me faire travailler les innombrables pièces qu'il a écrites pour les enfants, Kabalevski étant également un pianiste et un pédagogue extrêmement réputé. Comme Shostakovich, dont il est l'aîné de 2 ans, c'est aussi un excellent improvisateur et comme lui, il accompagne régulièrement dans sa jeunesse des films muets. C'est en 1956 qu'il écrit pour un théâtre moscovite une musique de scène pour Roméo et Juliette et vous allez voir que cette musique fait étonnamment penser à une musique de ballet, voire à une musique de film, ce qui peut sembler logique puisqu'après son expérience de pianiste de cinéma muet, Kabalevski continua à produire régulièrement des partitions pour le cinéma ou pour des pièces radiophoniques. Commençons par imaginer une pimpante matinée à Vérone où chacun vaque à ses occupations. Voici maintenant les préparatifs pour le bal et toute l'excitation des jeunes Montaigu, Mercutio, Roméo et Benvolio qui se rendent incognito au bal des Capulet. Couleurs orchestrales vives et flamboyantes, sentiments mêlés entre effervescence et inquiétude. Nous avons donc écouté successivement 2 extraits de Roméo et Juliette de Kabalevski. Tout d'abord un matin à Vérone, interprété par l'Orchestre Philharmonique d'Arménie dirigé par Loris Tchechnavorian, puis les préparatifs pour le bal dans la version de Dmitri Kitayenko à la tête de l'Orchestre Philharmonique de Moscou. C'est également Dmitri Kitayenko qui dirige le 3e extrait que je vous propose d'entendre maintenant, une scène réunissant les 2 amants juste après que Roméo a tué Tybalt. Roméo fait part à Juliette de son inquiétude, Puis les deux amants peuvent profiter pleinement de leur retrouvaille, rapidement troublés par la peur du sort qui leur sera réservé. Le couple doit finalement se séparer, Roméo étant contraint de s'exiler à Mantoue. La musique incarne avec une particulière justesse un sentiment ambivalent mêlant extase et tourment. Nous terminerons cette première émission consacrée à Roméo et Juliette par une version un peu moins tragique de l'histoire puisque Juliette a la vie sauve, même si elle reste inconsolable de la mort de son Roméo. Je pense au célébrissime West Side Story de Leonard Bernstein dont la création en 1957 à Broadway fera du compositeur et chef d'orchestre une véritable star. Dans cette si célèbre comédie musicale, l'action se déroule non pas à Vérone mais à New York. Les Capulet deviennent les Sharks, une bande de jeunes immigrés portoricains, et les Montaigu sont les Jets, des ados américains blancs. Juliette se nomme maintenant Maria, Roméo s'appelle Tony, et Mercutio et Tybalt sont désormais Riff et Bernardo. Ce qu'on ne sait pas toujours, c'est qu'à l'origine, l'affrontement devait opposer des Juifs et des Irlandais catholiques. La comédie musicale devant alors s'appeler East Side Story. Les Jets et les Sharks se disputeront finalement la partie ouest de Manhattan et je vous propose d'écouter tout de suite la célèbre Jet Song qui ouvre le premier acte de la comédie musicale. Quand tu fais partie des Jets, t'es un Jet jusqu'au bout, depuis ta première cigarette jusqu'à ton dernier souffle.
When you're a Jet, all the way from your first cigarette to your last dying day. When you're a Jet, let them do what they can. You've got brothers around, you're a family man. You're never alone, you're never disconnected. You're home with your own, when company's expected. You're well protected, then you are set with a capital J, which you'll never forget till they cart you away. When you're a Jet, you stay a Jet.
Now, I know Tony like I know me, and I guarantee you can count him in.
In, out, let's get cracking.
Where are you going to find Bernardo?
It ain't safe to go into PR territory.
He'll be at the dance tonight at the gym.
Yeah, but the gym's neutral territory.
Hey, Rab, I'm going to make nice with him. I'm only going to challenge him.
Great, Daddy-O.
So listen, everybody dress up sweet and sharp. Meet Tony me at the dance at the 10. And walk tall.
We always walk tall.
We're Jets.
The greatest.
When you're a Jet, you're a top cat in town. You're a gold medal kid with a heavyweight crown.
When you're a Jet, you're the swinging a sting. Little boy, you're a man. Little man, you're a king.
The Jets are in gear. Our cylinders are clicking. The shots are still clear. Cause every Puerto Rican's a lousy chicken.
Here come the Jets like a bat out of hell. Someone gets in our way, someone don't feel so well.
Here come the Jets, little world, step aside. Better go underground, better run, better hide. We're drawing a line, so keep your nose hidden. We're hanging a sign, so visitors forbidden. And we ain't kidding.
Here come the Jets, yeah. And we're gonna beat every last bugging gang on the whole bugging street, on the whole bugging, ever-loving street.
Rendez-vous samedi prochain pour une preuve par Z réunissant 7 nouvelles Juliette et bien sûr 7 nouveaux Roméo. C'était la preuve par Z, une émission de Jean-François Zigel, réalisée par Anne Weinfeld et préparée avec la collaboration de Théo Friconeau. Chef opératrice du son, Delphine Baudet. À la semaine prochaine. Et après le journal, vous retrouverez Jean Lebrun pour Intelligence Service.